Alors, c'est un peu sombre, mais c'est correct. J'espère bon matin à tout le monde. Content d'être. Bonjour, maman. content d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien. Ça me fait toujours plaisir d'être là avec toute la famille. On est toujours très content de venir vous voir, vous rendre visite. Ce matin, à l'Assemblée de Sainte-Foy, on est en train de faire l'étude de l'Épître aux Colossiens. Je pense que les dernières fois que vous avez eu des visites de Jean-Paul et Thomas, c'est les textes qu'ils vous ont partagés. La semaine prochaine, Thomas va faire la suite, donc vous ne serez pas perdu de ce qu'il va dire. Donc, on est en train de faire l'étude de Colossiens. On est rendu au chapitre 2, les versets 18 à 23. J'ai marqué 16 à 23, pardon. Donc, je vous invite à tourner avec moi pour qu'on suive ce texte-là ensemble. Il va être affiché à l'écran, donc vous pouvez suivre. Je vous invite à suivre dans vos Bibles, mais ça va être indiqué à l'écran également. Donc, on peut faire la lecture du texte. Le texte nous dit que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Un texte intéressant qu'on va considérer ce matin, à première vue qui apparaît un peu compliqué, bon, évidemment que le Seigneur bénisse sa parole, puis que le temps qu'on va passer ensemble soit utile, puis que ça l'éclaircisse pour chacun d'entre nous, ce texte-là, ça lui donne une valeur, puis ça nous, ça soit, c'est ça, ça soit utile pour chacune de nos vies. Qui parmi vous ici aimait aller au restaurant? Pas tant que ça, oui. Il y en a. T'aimes pas ça, Marc? Non? C'est correct. Non, ben, la majorité des gens aimons aller au restaurant. C'est toujours agréable. C'est toujours en tout cas, souvent une belle expérience. Des fois un peu moins belle, mais la majorité du temps, c'est une expérience positive, du temps de qualité avec des gens qu'on aime. Donc, les gens, on aime ça aller au restaurant. Vous serez d'accord avec moi qu'il existe beaucoup de sortes de restaurants, beaucoup de types de restaurants. Nous, on a des jeunes enfants, donc les restaurants qu'on voit en général, au grand détriment de Jeanne, ce sont des fast-foods. Ce sont des restaurants qu'on va chercher de quoi, puis souvent on va l'emporter, puis on va le manger à la maison. Puis ça sera, c'est de la restauration rapide qu'on va aller consommer à cause de la situation dans laquelle on est. Puis je suis certain que plusieurs d'entre vous le faites encore. Il y en a qui vont aller comme à l'Assemblée chez nous à Sainte-Foy tous les dimanches. Il y a des gens qui vont manger des restaurants déjeuner. Donc, ils vont aller prendre un déjeuner là, pour un genre de brunch sur leur dîner. Il y a des gens certainement ici, des groupes qui vont aller manger ensemble. Là, ça arrive à l'occasion. Donc, il y a des restaurants du type déjeuner, puis il y a des restaurants un peu plus évolué, donc avec des restaurants, avec de la nourriture un peu plus variée, de meilleure qualité, souvent un peu plus dispendieux aussi. Donc, il existe toutes sortes de restaurants, des restaurants selon nos besoins, nos réalités, qu'on peut aller. Puis, à travers les restaurants de plus haute qualité, il y a des restaurants de beaucoup plus haute qualité. Si je vous montre ce symbole-là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est des étoiles. C'est les étoiles Michelin. C'est qu'on parle, on dirait, ça n'a pas tout à fait l'air d'une étoile, là, mais quand vous entendez parler d'un restaurant qui a les étoiles Michelin, ben ces étoiles ont l'air de tout ça. Est-ce que vous êtes familier un peu avec le concept d'étoiles Michelin? Pas du tout. C'est des restaurants qui sont haut de gamme où est-ce que l'expérience en général, que ce soit le service, la nourriture, un peu l'ambiance, la décoration est de qualité supérieure. Puis les étoiles Michelin, c'est au Québec, c'est arrivé au Québec depuis maintenant quelques années ou un an. C'est tout récent que c'est arrivé. Avant, c'était en Europe principalement, en France, à différents endroits. Puis là, maintenant, c'est arrivé au Québec. Puis, dans la grande région de Québec, est-ce que vous pensez qu'il y a un restaurant qui a 3 étoiles? Hein? Non. Il n'y a aucun restaurant qui a 3 étoiles. Le standard est très élevé. Il y a un seul restaurant qui a 2 étoiles. Il y en a un seul, puis c'est pas le Château Frontenac. Mon but, c'est pas de le nommer. C'est pas de faire de la publicité, ce restaurant-là. Il y en a un seul. C'est un restaurant qui est quand même assez dispendieux. Disons que j'apprécie les grâces que Dieu me fait, l'abondance dans laquelle il nous place, mais dans sa grâce, Dieu ne permet pas qu'on aille dans ce type de restaurant-là. C'est vraiment très, très dispendieux aller manger là. C'est une expérience. Il y en a qui vont, puis ils sont bien contents, mais c'est ça, ça prend un budget particulier. Puis à mon travail, je travaille pour Intellinox, Lise, c'est une compagnie qui fait des systèmes de ventilation pour des cuisines de restaurants. Puis ce restaurant-là nous a approchés pour qu'on fasse, on refasse leur ventilation. Puis je parlais avec le responsable de projet, puis je lui disais, ben il pourrait nous payer en certificat cadeau, comme ça on pourrait aller faire une visite, puis pouvoir goûter cette nourriture-là qui est de grande qualité, qui est très réputée, parce que c'est dispendieux. Donc, évidemment, c'est moins accessible, ce genre de restaurant-là. Par exemple, je vous disais, OK, c'est pas accessible, mais j'ai une invitation gratuite pour aller manger dans un restaurant comme ça. Mettons, Marc, je t'invite, toi puis moi, on va aller manger dans ce restaurant-là. Est-ce que tu dis oui? OK, il n'y a aucune hésitation. Malgré la personne avec qui il mangerait, il dit « je veux goûter au restaurant ». Donc, évidemment, la majorité d'entre vous feriez cette réponse-là. Là, dit « ben là, je ne veux pas rien savoir de manger Guillaume ». Il y en a peut-être, là, mais j'espère que non. Mais tout le monde dirait « oui, j'aimerais ça aller manger dans un restaurant comme ça ». Puis, évidemment, quand on va manger dans un restaurant comme ça, on s'attend à avoir l'expérience totale, à manger le menu au grand complet, le 5 étoiles, le service, le nombre de services qu'il peut avoir, puis à tout goûter. Mais imaginez que Marc et moi, on va dans ce restaurant-là, puis qu'à l'entrée, on dit au serveur, qui est bien habillé, qui est gentil, qui est poli. Écoute, avant de venir, on a passé à l'épicerie, puis il y a un petit vin qu'on aime, là, qu'on a acheté, puis qu'on a décidé d'amener pour prendre avec le repas qu'on va manger. Est-ce que vous pensez que ça fait du sens? Ça serait un peu particulier, ou que je pourrais dire, ben écoute, Marc, il dit, moi, je fais vraiment une bonne salade, là. Fait que j'ai décidé de l'amener pour accompagner le repas qu'on va manger. Ça va donner un peu de tonus à ce que vous allez faire. Le produit pas mal, là, mais j'ai décidé d'amener un petit quelque chose. Ou que Marc, il dit, écoute, j'ai pas vraiment confiance à vos sauces. J'ai décidé d'amener mon assaisonnement pour pouvoir manger avec le repas. Un bon assaisonnement comme ça, Marc, là, que t'aimes bien. Évidemment, si on ferait pas ça, on ferait pas ça. Puis si on allait devant le serveur puis on lui disait ces choses-là, le serveur, il se dirait, sont bien bizarres ces clients-là, sont bien particuliers, c'est donc bien des clients, c'est ça, c'est des bizarres. Puis il nous dirait, écoutez, messieurs, ici, tout est inclus, là. Vous n'avez pas besoin de rien amener d'autre. Tout est fourni. On fournit le A à Z, le breuvage, les entrées, la salade, le dessert. Tout est inclus dans ce que vous allez manger. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que ici, on est dans un texte qui nous parle de... le texte juste avant qu'on a lu, ça nous parle de l'œuvre du Seigneur Jésus. On s'est rappelé le temps ce matin, on s'est rappelé de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Puis le texte qui précède le texte qu'on vient de lire, c'est les versets 13, 14, 15, ça nous parle un peu de la grande œuvre du Seigneur Jésus à la croix, puis la victoire qu'il a remportée. Le texte nous dit, les versets 14 et 15, « Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. » Donc, le Seigneur Jésus a fait le forfait tout inclus. Il a fait une œuvre complète, parfaite. Tout est réglé. Malheureusement, au temps où ce que les Paul a écrit la lettre, il y avait des gens qui disaient que finalement, oui, le Seigneur a fait une œuvre, mais il faut quand même faire notre part. Il faut quand même rajouter quelque chose. Un peu, c'est pour ça l'analogie avec le restaurant. C'est, au lieu d'aller dans le restaurant que tout est inclus puis profiter, bien, il faut rajouter un petit quelque chose. Il faut faire notre part. Il faut rajouter une salade, si on veut, à l'œuvre pour pouvoir être admis, pouvoir avoir la vie éternelle. Puis c'était un faux enseignement qui existait à cette époque-là. Donc, sous le thème d'un restaurant, on va regarder trois erreurs qui étaient enseignées au temps de ce que Paul a écrit la lettre, puis on peut être sujet à avoir aujourd'hui des avertissements. Le salut est une œuvre complète, une œuvre qui est faite par le Seigneur Jésus, puis on peut rien y rajouter. Fait que c'est vraiment l'idée principale que je veux que vous reteniez ce matin. Donc, on va voir c'est quoi ces choses-là qui peuvent être des erreurs, puis des erreurs qui existaient à l'époque des apôtres. Donc, on va voir dans le thème de restaurant, on va voir une entrée de légalisme, un potage de mysticisme, une salade d'ascétisme. Puis évidemment, on va voir des applications pour vous et moi en 2026. Simplement, pour être certain des mots, légalisme, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ou représenter? Quand on parle de légalisme, c'est ajouter des lois. À l'époque des apôtres, il y avait ce qu'on appelait des judaïsants qui disaient qu'il y a l'œuvre du Seigneur Jésus plus la loi mosaïque, plus les œuvres de la loi de l'Ancien Testament. Donc, essayer de combiner les deux ensemble. Le mysticisme, il y a une notion d'expérience avec des... On a l'idée mystique, là, un peu... il y a une expérience avec des esprits, avec des visions, des choses un peu... anormal, puis je pense pas nécessairement que c'est un enjeu ici, évidemment, là, mais c'était des enjeux au temps des apôtres. Puis l'ascétisme, un nouveau mot pour beaucoup d'entre vous, que je connaissais pas vraiment non plus avant de faire le message. Qu'est-ce que c'est? Il y a une idée du mépris du corps. C'est quelqu'un qui va se priver un peu, qui va vivre une vie austère, il va se priver de choses. On peut penser même des gens qui vont se faire des mortifications, des choses pour essayer de... c'est ça, c'est vraiment un mépris du corps pour essayer de plaire à Dieu de cette façon-là. Fait que c'est vraiment ces trois points-là qu'on va regarder, qui sont discutés dans le texte qui est devant nous ce matin. Puis on va voir évidemment des applications pour vous et moi. Donc avant d'aller plus loin, prions pour remettre le temps entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, on te remercie pour tout d'abord le temps qu'on a passé ce matin à t'adorer, à se rappeler de ce que tu as fait dans nos vies, à se rappeler l'œuvre du Seigneur Jésus. Puis on te remercie maintenant pour ce texte que tu places devant nous. Notre prière, c'est que tu bénisses ce temps dans ta parole. Ouvre nos cœurs, rends-nous attentifs, permet qu'on puisse apprendre des choses, puis que ce soit des choses qui soient utiles pour nos vies, puis que tout se fasse pour ta gloire. On te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, premier point, l'entrée. On va commencer par l'entrée, une entrée de légalisme. Le texte, on va relire les versets, le verset 16. « Est-ce que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats? » Donc, le texte commence par « que personne ». Dans les versets précédents, on va aller voir quelques-uns, l'expression « que personne » revient à quelques reprises. On va simplement les voir, sont affichés à l'écran. « J'ai dit cela, chapitre 2, verset 4, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Colossiens 2, 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine de romperie s'appuyant sur les traditions des hommes. » Donc, l'expression que personne revient à deux reprises. Puis, ça ressemble à quoi ces deux reprises-là? Ça ressemble à des avertissements. C'est des avertissements. Paul avertit les Colossiens que personne ne vous trompe, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Donc, c'est des avertissements. Ici, c'est la même chose, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Donc, c'est un avertissement que Paul va donner aux ceux qui lisent la lettre. Puis pourquoi qu'il avertit? Parce que c'est un danger réel pour les Colossiens, c'est un danger réel à l'époque des apôtres. La preuve, c'est que même l'apôtre Pierre lui-même s'est fait prendre au jeu avec les judaïsants ou ceux qui prêchaient une forme de légalisme. Il s'est fait prendre au jeu dans l'Épître aux Galates. Paul raconte, puis Paul il dit, « Lorsque Céphas, qui est l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Donc, même l'apôtre Pierre s'est fait prendre au jeu avec le principe de judaïsant ou de vouloir intégrer une certaine forme de loi ou de juif judaïsant à travers la foi, à travers les chrétiens. Donc, c'est un danger. Donc, c'est un danger pour Pierre, c'est certainement un danger pour les gens de Colosse, c'est certainement un avertissement pour nous de faire attention à toute forme de légalisme qu'il pourrait avoir dans notre façon de s'approcher du Seigneur. Que personne, donc, ne vous juge. Encore une fois, l'idée du jugement, si on va en cour puis le juge fait quelque chose, il y a un aspect légal à travers ça, donc l'idée du légalisme. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Donc, pourquoi qu'il pourrait y avoir un risque que le manger ou le boire soit un enjeu? Pourquoi qu'il pourrait y avoir un légalisme par rapport à ça? Vous pensez? Est-ce que dans la loi de Moïse, il y avait des recommandations ou des restrictions par rapport à la nourriture? Oui, il y en avait. Oui, je regarde mon père, tu peux le dire fort, ne sois pas gêné. Dans Lévitique 11 et verset 1 à 4, j'ai évidemment certains extraits du texte. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez. Donc, une liste d'animaux qui peuvent manger, des animaux qui sont considérés comme purs. Puis, un peu plus loin, il dit, mais vous ne mangerez pas. Puis, il y a une liste d'animaux qui sont considérés comme impurs. Donc, il y avait dans la loi de Moïse des dispositions particulières par rapport à ça. Puis là, Paul dit, ben là, que personne ne vous juge par rapport au manger ou du boire. Est-ce que ça veut dire que Dieu a changé d'idée? Non, Dieu ne change pas. Mais Dieu, il faut garder par rapport à la nourriture. Je tiens à mentionner à la création, Adam et Ève ne mangeaient que des légumes, des fruits. Après le déluge, Dieu a parlé à Noé et il lui a expliqué qu'il pouvait faire des barbecues, qu'il pouvait manger de la viande. Donc, c'est arrivé après le déluge. Avant ça, ce n'était pas quelque chose que les gens faisaient. Quand Moïse est arrivé avec la loi, Dieu a amené ces consignes-là. Pourquoi Dieu le fait? Il y a une idée pédagogique. C'est toujours l'idée de montrer. La loi est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ces dispositions-là étaient des pédagogues pour montrer l'incapacité, la difficulté à rencontrer ces exigences-là. Puis maintenant que le Seigneur Jésus est venu, qui a accompli cette œuvre parfaite, qui a triomphé des dominations des autorités, dans le texte qu'on a vu juste avant, bien, on n'a plus à se soucier de ce qu'on mange pour plaire à Dieu, pour s'approcher de Dieu. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un, ça peut être un enjeu, qu'il faut le regarder de haut puis de le juger, évidemment. Romains 14, 2 à 3, ça dit, « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Donc, Dieu accueille tout le monde, même ceux qui ont, ils peuvent avoir des difficultés par rapport à ça. Mais l'idée à comprendre, à garder en tête, c'est que ce n'est pas parce que je mange ou je ne mange pas quelque chose que Dieu, je peux gagner mon ciel par rapport à ce que je mange. C'est vraiment l'idée qu'il faut comprendre avec cette notion-là. Même chose par rapport à, ça parle du manger ou du boire, si je continue, je l'avais déjà lu, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. c'est les fêtes, on fait référence aux fêtes juives, les nouvelles lunes, c'est la façon que les juifs géraient les lunes, puis les sabbats aussi. Les juifs, il y avait une journée qui était le samedi, ils ne pouvaient pas faire grand-chose essentiellement, alors ils devaient prendre une journée de repos, parce que Dieu avait donné cette disposition-là. Est-ce que ça veut dire que nous, étant donné qu'on est dimanche matin, puis on se réunit dimanche matin, on est correct, là, vu que c'est pas le samedi, on s'en sort parce qu'on est dimanche. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre de cet avertissement-là, vous pensez? Non, c'est pas ça. C'est l'idée qu'il ne faut pas penser encore une fois que parce qu'on respecte une journée, puis évidemment, je crois que c'est bien de prendre un temps pour se reposer, pour considérer ce que Dieu a fait pour avoir un temps d'adoration. Je pense que c'est la volonté de Dieu qu'on le fasse. Mais on devient pas. Dieu nous est pas favorable parce qu'on le fait. Dieu nous sauve. Puis après ça, on le fait en reconnaissance. On le fait pour pouvoir l'adorer. La notion est différente. Les judaïsants, ceux qui prônaient le légalisme, leur avaient dit, croyez en Christ, observez toute la loi mosaïque, faites-vous circoncire et vous serez sauvés. Donc, croyez en Christ et faites autre chose et vous serez sauvés. Christ plus les œuvres, plus le légalisme, comme si l'on pouvait se sauver soi-même, comme s'il y avait quelque chose à faire, comme si l'on pouvait externaliser son salut. Puis c'est ça l'erreur que Paul essaie d'attaquer. On ne peut pas se sauver soi-même, on ne peut pas ajouter quelque chose à ce que le Seigneur Jésus a fait. Le point de Paul est simple, la vraie spiritualité ne consiste pas en la simple observance de règles extérieures, mais en une relation intérieure avec Jésus-Christ. C'est ça la vraie spiritualité, c'est comme ça qu'on est sauvé avec une relation avec le Seigneur Jésus, pas parce qu'on a fait quelque chose pour le satisfaire. Puis c'est constamment cette notion-là qu'il faut garder en tête. Paul revient sur le légalisme ou les lois, puis il va mentionner que c'était l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'ombre des choses à venir? C'est si quelqu'un s'en vient, on voit son ombre, quelqu'un marche, on voit son ombre, c'est... On sait qu'il s'en vient, mais c'est pas réel. C'est juste, l'ombre est réelle, mais c'est pas la personne en tant que telle, sa chair qui est là. C'est juste un ombre. C'est une en prévision de ce qui s'en vient. Fait que c'est cette idée-là, l'ombre des choses à venir. Puis là, il mentionne, mais le corps est en Christ. Puis une autre traduction mentionne, la réalité est en Christ. Donc maintenant que Christ est venu, qui a accompli l'œuvre de la croix, qui a fait la rédemption. La réalité est là, on n'a pas besoin de se tourner des choses qui étaient des ombres de ce qui allait arriver. Maintenant, le Seigneur est venu, puis il y a une pleine révélation. On n'a pas besoin de se retourner vers ces choses-là qui étaient derrière nous. Fait que c'est l'idée qu'il veut mentionner. Vous me suivez bien? Parfait, on poursuit. Deuxième point, un potage de mysticisme. Verset 18, « Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité par un culte des anges vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions qu'il est enflé de vain orgueil par ses pensées charnelles. » Encore une fois, cette portion-là commence par un avertissement que personne, c'est un avertissement, donc il y a un risque de tomber dans ce piège-là. L'idée, là j'ai sauté ce qui est en parenthèse, si on veut, là, que personne ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Il y a une idée, on est en train de courir, puis on a quelqu'un qui fait une course, puis qui est disqualifié. Il y a cette idée-là dans le texte. Dire qu'on, personne ne vous dit que vous êtes disqualifié, puis le course, c'est la course de la foi, la course de la vie chrétienne. Personne ne vous dit que vous êtes disqualifié parce que vous ne faites pas certaines choses, que vous n'avez pas certaines expériences que des personnes se vantaient d'avoir à Colosse à ce moment-là. Ces expériences-là, c'est comme si ces gens diraient sur une apparence d'humilité, c'est comme si ces gens diraient, il manque quelque chose à la foi. Ta foi n'est pas assez profonde. Là. Il manque quelque chose, une expérience particulière pour pouvoir dire que tu as réussi, tu as atteint, tu as obtenu ton salut d'une certaine façon. Il y avait un faux enseignement qui mentionnait ça. Puis évidemment, Paul s'oppose à ça. Qu'est-ce que c'était? Un culte des anges et des visions. Évidemment, ces gens pensaient qu'ils devaient avoir une expérience. Il cherchait à communiquer avec des anges. Évidemment, on pense que ce n'était pas vraiment des anges, des bons anges, c'était des démons qui essayaient d'avoir des visions particulières. Ils disaient, ah, si j'atteins cette expérience spirituelle-là, ben là, je vais avoir un statut supérieur, puis là, Dieu va enfin m'être favorable. Fait que c'est un peu le faux enseignement qui courait, un des faux enseignements qui courait à ce moment-là. Puis Paul, évidemment, s'oppose férocement à ça. John MacArthur mentionne par rapport à ce texte-là, « Ne laissez personne vous dire que vous êtes disqualifié parce que vous n'avez pas atteint le niveau d'humilité requis, que vous n'avez pas compris le culte des anges, que vous n'avez pas eu les visions appropriées. » Il y avait cette fausse pensée-là qui devait faire quelque chose de plus. Puis la vérité, c'est que ces gens-là qui se vantent de ça, ils sont enflés d'orgueil dans leur esprit charnel. Il y a une faute d'orthographe. Ces gens-là sont charnels, ils pensent en faire plus, mais ils sont remplis d'orgueil. C'est une erreur qu'ils ont. Puis Paul, son argument, c'est que ces gens-là, ils disent, bon, ben pour s'approcher de Dieu, il faut quelque chose d'autre. Ça prend une vision, ça prend une expérience avec un ange. Il faut comme rajouter quelque chose. Puis Paul dit, ces gens-là ne s'attachent pas au chef. Verset 19, sans s'attacher au chef dont tout le corps a cité, solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc, ces gens-là ne sont pas attachés au chef, ou la traduction Jérusalem dit ne s'attache pas à la tête. Une notion d'un corps qui est attaché à la tête. C'est comme si, bon, Christ est le corps, est la tête, pardon, puis nous sommes le corps. Puis si vous, c'est comme s'il faudrait s'attacher à quelque chose d'autre pour réussir à s'approcher de Dieu, ce qui ne tient pas la route. Évidemment, ce qui ne tient pas de sens, parce qu'il n'y a pas de sens. Puis là, il mentionne tout le corps tire son accroissement de la tête. Du chef du Seigneur Jésus. Donc, si vous voulez trouver quelque chose d'autre, vous attachez à quelque chose d'autre, vous faites erreur, vous faites fausse route. Évidemment, on comprend comment que le corps humain est fait, la tête contrôle tout. C'est la tête, si le cerveau n'est pas là, puis ne contrôle pas tous les membres, ça ne fonctionne pas. Donc, si on cherche quelque chose qui n'est pas la tête, qui n'est pas le Seigneur Jésus, ben, on fait fausse route. Puis c'est la pensée ici que Paul cherche à mentionner. Est-ce que cette notion-là, cette pensée-là, une tête avec un corps, est-ce que le Seigneur Jésus a amené une idée similaire dans ses enseignements? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? Comment? Oui, mais une idée de faut s'attacher à, tu sais, il faut s'attacher à la tête. Le Seigneur, est-ce qu'il mentionne l'idée de s'attacher à lui? Les gens sont gênés de dire fort la terre, le sceptre et les sarments. Donc, c'est le même concept. Il y a une idée ici pour la vie spirituelle, il faut s'attacher. Le Seigneur Jésus dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si on essaie de s'approcher de Dieu ou d'ajouter quelque chose, d'avoir une expérience avec un ange ou une vision, si on n'est pas attaché au Seigneur, on est dans l'erreur. Puis sans moi, le Seigneur déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, c'est une idée similaire, un concept similaire qui est enseigné ici par Paul. Troisième point maintenant, une salade d'ascétisme. Donc, je rappelle, l'ascétisme, c'est l'idée de mépris du corps, volontairement c'est chercher à avoir une vie austère, à se priver, à se faire des mortifications, des choses du genre pour essayer de gagner ou gagner son ciel ou plaire à Dieu. Verset 20, « Si vous êtes mort avec Christ au rédiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? » Donc, si vous êtes mort, l'idée, quand on est converti, évidemment, Paul ici s'adresse à des chrétiens, s'adresse à des gens qui sont sauvés. Si vous êtes mort avec Christ, si vous avez une nouvelle vie en Christ, puis la semaine prochaine, je vous dis à l'avance, le chapitre 3, le verset 1, ça dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ », fait que c'est la suite qu'il va donner ici. Donc, si vous êtes mort avec Christ, les choses anciennes sont passées. Si vous êtes mort avec Christ, vous êtes mort au rudiment du monde, pourquoi? Pourquoi alors vous regardez en arrière? C'est un peu l'idée. que Paul va leur mentionner. Pourquoi? Comme si vous viviez dans ce monde, on vous impose ces préceptes ou ces principes élémentaires. Pourquoi qu'on vous vous tournez vers ces choses-là? L'idée principe élémentaire, c'est pas une idée qui est simple. Je regardais les commentaires, c'est pas nécessairement clair. C'est quoi? Il y a un esprit de... C'est mentionné dans Colossiens 2, le texte que j'ai déjà montré, Colossiens 2, 8, il mentionne l'idée de principe élémentaire, de s'appuyer sur la tradition des hommes, des principes élémentaires du monde et non sur Christ. Puis c'est pas nécessairement clair ce que ça veut dire. Un des commentaires, ça dit « La plupart des érudits modernes et certaines traductions interprètent les principes élémentaires comme des esprits élémentaires. » Donc, une forme spirituelle un peu difficile à saisir. Puis, ce commentateur-là, il dit « Je pense que cela fait aussi référence à une approche de Dieu par le respect de certaines règles. » Essayer de plaire à Dieu par des choses qu'on pourrait faire. Il y a cette notion-là. Puis, l'auteur mentionne, puis c'est un point que je mentionne depuis le début, la croix a mis fin à cette approche de Dieu fondée sur le respect des règles. Donc, c'est terminé, on n'a pas besoin on n'est pas sauvé par le respect des règles, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Le texte dit « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas à l'idée de l'ascétisme », il y a beaucoup de se priver de choses, dans son corps pour plaire à Dieu, de cette notion-là. Fait que c'est pour ça qu'il mentionne ces choses-là. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. C'est vraiment de la privation. L'ascétisme, elle met l'accent sur tout ce que l'on ne peut pas faire. Ne touche pas ceci, ne goûte pas cela. Il conduit à une vie restrictive et répressive. Donc, c'est se priver constamment dans le but de s'approcher ou de plaire à Dieu. Puis Paul s'oppose à cette pensée-là. Il va même dire, c'est des préceptes, c'est des choses qui deviennent pernicieux par l'abus. Pernicieux, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. En tout cas, moi, je l'utilise pas. Je l'utiliserai plus de la journée, je vous le promets. Je l'utiliserai pas jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? La traduction français courant mentionne, c'est destiné à disparaître. C'est des choses pas de valeur, qui vont disparaître. Pourquoi ça va disparaître, ces choses-là, ces pensées-là, ces traditions-là, ces rudiments du monde-là? Ben, c'est des ordonnances qui... C'est fondé sur les ordonnances et sur les doctrines des hommes. Donc, ça vient des hommes. Donc, si ça vient des hommes, ces pensées-là, ces erreurs-là, ça va être appelé à disparaître. Puis, Paul, au verset 23, il va mentionner... Ils ont en vérité des gens qui vont vivre une vie austère, qui vont pratiquer l'ascétisme d'une certaine façon, une apparence de sagesse. T'sais, ils vont se mépriser, ils vont se priver, ils vont montrer une certaine forme de... On pourrait regarder ça de l'extérieur et dire, wow, ces gens-là, ils font vraiment des choses pour... T'sais, ils vont vraiment une maîtrise de soi à l'extrême là, pour essayer de plaire à Dieu. C'est quand même impressionnant, là. On pourrait avoir cette pensée-là, de dire c'est vrai que c'est quelque chose. Mais qu'est-ce que Paul dit? Ça n'a aucune valeur. Ils ont, je vais relire verset 23, ils ont la vérité d'une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite. Ça n'a pas de valeur ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est leur tentative de plaire à Dieu en s'en privant, en ayant un mépris du corps. Ça ne fonctionne pas, puis au contraire, il ne sert qu'à satisfaire la chair. C'est tordu, mais d'une certaine façon, en se privant comme ça, ils veulent se prouver, ils cherchent à se glorifier dans leurs actions, puis en pensant que leurs actions vont plaire à Dieu. Puis c'est ça que Paul veut avertir. C'est pas comme ça qu'on obtient le salut, c'est pas comme ça qu'on est sauvé. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est entièrement... s'appuyer sur l'œuvre du Seigneur Jésus. Ça vous va? Est-ce que le texte vous apparaît un peu plus clair? C'est ce que je souhaite. On va faire un petit... une pensée. Ça me faisait penser cette notion-là aux pharisiens qui vont prier au temple. Deux hommes montent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. On connaît la parabole que Seigneur Jésus a racontée. Le pharisien debout priait en lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce, que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou comme ce publicain. » Là, je te pointe, mais c'est parce que t'es là, c'est correct. « Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous les revenus. » Puis là, il va mentionner les choses qu'il fait qui sont tellement extraordinaires, puis il peut se présenter ça à Dieu. qu'est-ce que le texte nous dit? C'est que c'est l'autre qui est retourné chez lui justifié. C'est le publicain, puis pas ce pharisien-là. On peut être tout près du temple. Le pharisien était tout près du temple, mais il était très loin de Dieu. Puis on peut penser par nos actions qu'on est prêt, puis Dieu nous est favorable, mais si on veut prouver quelque chose à Dieu par nos actions, on fait fausse route. Bon, petit résumé des applications de ce texte-là. Des applications qui sont très simples, puis c'est un encouragement. Mon but, c'est que ce soit un encouragement pour chacun d'entre nous. Je reviens à mon idée de repas gastronomique que j'avais au début, Marc et moi, là, qu'on est d'un resto gastronomique. On va remplacer la notion de repas par le salut. Donc, le salut, là, c'est une vérité théologique intéressante que je vous invite à retenir, le salut n'est pas un potluck. Donc, je répète, c'est important, le salut n'est pas un potluck. Vous savez c'est quoi un potluck? C'est quoi un potluck, Francine? Tout le monde apporte quelque chose. Tout le monde contribue. Très bonne réponse. Puis le salut, c'est pas un potluck. C'est pas, bon, ben le Seigneur Jésus a fait quelque chose. Puis j'amène mon petit plat de bonnes œuvres. Puis là, ça va faire un repas intéressant. C'est pas comme ça que ça fonctionne, le salut. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Mes bonnes œuvres n'ont pas de valeur. C'est la notion, si Marc et moi, on va au restaurant, on n'amène rien. On l'amènera pas, notre bouteille de ketchup. Ça n'a pas de valeur. C'est vraiment cette notion-là. Le salut n'est pas un potluck. Le salut, c'est entièrement une œuvre qui est faite par le Seigneur Jésus. On peut rien y ajouter. Il n'y a rien qu'on peut faire pour y ajouter. Le salut ne demande pas d'étiquette. Les gens, il y avait une notion de légalisme, de comportement. Si vous vous comportez d'une certaine façon, Dieu va vous être favorable. Le salut n'a pas d'étiquette. Il faut s'habiller d'une certaine façon pour que Dieu nous soit favorable. Il faut qu'on se comporte d'une certaine façon pour que Dieu nous soit favorable. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Évidemment, il faut revêtir les vêtements du salut. Il faut détourner nos péchés. Il faut demander à Dieu de nous sauver. Ça, c'est important de le faire. Mais c'est pas notre comportement qui change quelque chose. C'est, encore une fois, l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus qui fait la différence. Le salut est entièrement prêt. Le Seigneur Jésus a complété, l'œuvre est accomplie. Le Seigneur Jésus, quand il est allé sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir, Mario? Oui, mais avant. Oui, tout est accompli. On pourrait faire plusieurs paroles, là, mais celle que je cherchais, c'est tout est accompli. Le Seigneur Jésus, voyons-le comme le grand cuisinier gastronomique. Le repas est prêt, tout est réglé, tout est fait, tout est prêt. Il nous reste simplement à entrer puis à en profiter. Il n'y a rien qu'on peut ajouter de notre côté. Le Seigneur Jésus a tout fait, puis il prépare un meilleur repas que nous. Si vous comprenez mon image, mon analogie, évidemment. Maintenant, ça veut-tu dire que j'ai rien à faire? Pour être sauvé, il n'y a rien que je peux faire. Pour ma vie chrétienne, est-ce que ça veut dire maintenant j'ai plus rien à faire puis je fais ce que je veux? Comme j'ai mentionné, le texte chapitre 3, verset 1, « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut. » Puis la semaine prochaine, Thomas va vous entretenir de tout ça, de comment qu'on se comporte maintenant qu'on est sauvé. Mais on n'est pas sauvé par la façon qu'on s'est comporté. C'est une fois qu'on est sauvé, qu'est-ce qu'on fait? Puis l'encouragement de ce que je veux vous donner, c'est que le salut doit être savouré, ça doit être dégusté. Je reviens à notre idée de restaurant, si on y va, j'espère qu'on va y aller. Dis là, on va goûter à tout, c'est surtout si tout est gratuit, là. On va apprendre beaucoup, on va goûter, on va profiter du repas. On va pas dire en montant, Marc puis moi, on va arrêter au McDo en montant. Puis, tu sais, c'est pas logique de dire on va vouloir ajouter quelque chose d'autre, on va arrêter en allant de l'essence, on va s'acheter un petit sandwich pour creuser, pour remplir l'estomac avant de se rendre. Ça n'a aucun sens de faire ça. Puis la vie chrétienne, c'est un peu la même chose. Le Seigneur a tout accompli, puis il nous invite de profiter de la vie abondante, la vie qu'il nous donne. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder puis essayer de prendre d'autres choses. Ça, si on va d'un bon restaurant, on n'aura pas envie d'aller d'un fast-food ou d'un restaurant de moins bonne qualité. Évidemment, on va vouloir en profiter. On ne voudra pas aller dans les poubelles pour essayer de trouver d'autres choses avant de profiter du bon restaurant. Bien, la vie chrétienne, c'est la même chose. Si on se tourne et on prend d'autres choses, ce que le monde propose, c'est pas au niveau de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, si on se tourne, on prend des choses qui ne sont pas ce que Dieu nous propose, ben, ce n'est pas au niveau de ce que Dieu a prévu pour nous. Le salut doit être savoureux, puis le salut est offert à tous. Le salut est offert rapidement, gratuitement à tout le monde. Je termine là-dessus. Ésaïe, 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le salut est gratuit, puis tout le monde est invité. Il faut simplement venir au Seigneur Jésus, venir à Dieu, puis offrir, accepter ce qu'il nous offre. Je vais terminer par un mot de prière. Notre Dieu, merci pour ce temps qu'on a passé dans ta parole. Seigneur, merci parce que tu as pleinement, entièrement accompli le salut, Seigneur. Tout ce qu'on a à faire, c'est de dire oui à ton invitation, puis d'y aller parce que c'est ce que tu nous offres, c'est ce que tu nous donnes, puis c'est un trésor de grâce, Seigneur, qu'on a chanté ce matin. Puis merci pour l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus. Garde-nous de faire erreur, puis de vouloir faire des choses pour t'impressionner ou des choses pour gagner notre ciel, sachant qu'il n'y a rien qu'on peut faire qui peut nous rendre favorable. Mais merci que le Seigneur Jésus a tout accompli. Seigneur, je te prie pour chacun ici. Permets qu'on puisse passer une bonne semaine. Bénis chacun, puis permets que ce temps dans ta parole puisse être utile pour chacune de nos vies. On prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.